À 17h20 cet après-midi-là, j'ai garé ma Sunliner sur le terrain de stationnement jouxtant l'église baptiste de Wycham Street. Elle se trouvait là en nombreuse compagnie. D'après le panonceau, une réunion des alcooliques anonymes se tenait à 17h dans cette même église. Dans mon coffre étaient rangés tous les biens que j'avais accumulés au cours de mes 7 semaines de résidence dans la petite ville insolite, comme j'en étais venu à la désigner mentalement. Les seuls articles indispensables étaient dans la sacoche Lord Buxton, que Hal m'avait donnée. Ses notes, mes notes et l'argent restant. Dieu merci, j'en avais conservé la plus grande partie en liquide. À côté de moi, sur le siège passager, j'avais ma bouteille de caopectate, maintenant aux trois quarts vide, dans un sac en papier avec les garnitures pour l'incontinence. Par bonheur, je pensais que je n'aurais pas à m'en servir. Mon estomac et mes intestins semblaient s'être calmés et mes mains ne tremblaient plus. Dans la boîte à gants, par-dessus mon spécial police, j'avais 5 ou 6 barres chocolatées Payday. Je les ai rajoutées dans le sac en papier. Plus tard, quand je serai positionné entre le garage et la haie du 202 Wymore Lane, je chargerai le revolver et le glisserai dans ma ceinture. Comme un vulgaire tueur dans le genre de film de série B qui passait au Strand. J'avais aussi autre chose dans la boîte à gants. Le dernier numéro du W Guide, avec Fred Astaire et Barry Chase en couverture. Pour la 10e fois peut-être depuis que je l'avais acheté au kiosque en haut de Main Street, je l'ai ouvert à la page du vendredi. 20h, chaîne 2, les nouvelles aventures d'Ellery Queen, avec George Nader et Les Tremaine. Si riche, si belle, si morte. Tandis qu'un intrigant courtier, Whit Bissell, traque une riche héritière et vagabore, Ellery et son père enquêtent. Je l'ai glissé dans le sac en papier, surtout pour me porter chance, avec le reste, puis je suis descendu de voiture. Je l'ai verrouillé et suis parti pour Wymore Lane à pied. En route, j'ai croisé des mamans et des papas faisant la tournée d'Halloween avec des enfants trop petits pour être livrés à eux-mêmes dans les rues. Sur de nombreux perrons, des citrouilles évidées souriaient gaiement, et 2 ou 3 pantins rembourrés, coiffés de chapeaux de paille, me regardèrent passer d'un œil vide. J'ai descendu Wymore Lane en marchant au milieu du trottoir, comme si j'avais le droit le plus absolu d'être là. Croisant un père tenant par la main une fillette qui arborait de grandes oreilles en plastique noir sur une perruque de cheveux frisés, le rouge à lèvres écarlate de sa maman et de longs pendants d'oreilles de gitane, j'ai soulevé mon chapeau à l'adresse de papa et me suis penché vers Fifi qui avait à la main son propre sac de friandises. « En quoi es-tu déguisée, ma jolie ?»«
Annette Funicello », m'a-t-elle répondu. « C'est la plus jolie mousquetière du club Mickey Mouse. »
« Et t'es aussi jolie qu'elle ?» l'ai-je complimenté. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit ?» Elle parut décontenancée et son père se pencha pour lui murmurer quelques mots à l'oreille. Son visage s'éclaira d'un sourire.
« Un bonbon ou une farce ?»«
C'est ça, j'ai dit. Mais pas de farce ce soir. » Sauf celle que je comptais jouer à l'homme au marteau. J'ai pris une friandise aux cacahuètes dans mon sachet, tâtonnant autour du revolver pour la trouver. Elle la lui est tendue. Annette a ouvert sa poche et j'ai laissé tomber mon offrande. Je n'étais qu'un type anonyme dans la rue, un parfait inconnu dans une ville qui, il n'y avait pas si longtemps, avait été le témoin de crimes horribles. Mais j'ai lu la même confiance enfantine sur les traits du père et de sa fille. L'époque des bonbons drogués ou LSD était encore à venir, tout comme celle des avertissements du genre « ne pas consommer si le cachet de garantie est brisé ». Le père ajouta quelque chose à l'oreille de sa fille.
« Merci, monsieur, » me dit Annette Funicello.
« Avec grand plaisir. » J'ai adressé un clin d'œil au papa. « Passez une bonne soirée, tous les deux.
Ah, »« Elle aura probablement un joli mal de ventre demain matin, » commenta le père.
Mais il souriait.
« Allons-y, sourisette. »«
Je m'appelle Annette !»
répliqua-t-elle.
« Pardon, pardon, allons-y, Annette !»
Il me gratifia d'un grand sourire, souleva à son tour son chapeau et tous deux repartirent à la chasse au butin. Quant à moi, Je continuai en direction du 202 sans me presser. Si mes lèvres n'avaient pas été aussi sèches, j'aurais siffloté. À l'entrée de l'allée, j'ai risqué un rapide coup d'œil alentour. Il y avait quelques chasseurs de bonbons de l'autre côté de la rue, mais personne ne me prêtait la moindre attention. Parfait. J'ai remonté l'allée d'un pas vif. Une fois derrière la maison, j'ai poussé un soupir de soulagement si profond qu'il m'a semblé remonter du fin fond de mes talons. Je me suis posté en faction dans le coin droit du jardin, bien caché entre le garage et la haie. C'est du moins ce que je pensais. J'ai glissé un œil dans le jardin des Dunning. Les vélos avaient disparu, mais la plupart des autres jouets étaient toujours là. Un arc et des flèches à ventouses, une batte de baseball aux manches entourées d'adhésifs antidérapants, un cerceau de houle à verre. Mais il manquait la carabine à air comprimé Daisy. Harry l'avait rentrée, car il voulait l'emporter quand il partirait à la chasse aux bonbons, déguisé en Buffalo Bob. Tougal avait-il déjà chambré sur le sujet? Sa mère avait-elle déjà dit « Tu peux la prendre si tu veux, c'est pas un vrai fusil ». S'il ne l'avait pas déjà fait, alors il n'allait pas tarder. Leur réplique était déjà écrite. Mon estomac se contracta, non pas à cause du virus saisonnier cette fois, mais parce que la prise de conscience brutale, de celle qui frappe aux tripes, venait de débarquer dans toute sa majestueuse gloire. Ça allait vraiment arriver. En fait, c'était déjà en train d'arriver. La représentation avait commencé. J'ai consulté ma montre. Il me semblait que ça faisait une heure que j'avais laissé ma voiture sur le parking de l'église. Mais il était à peine 17h45. Chez les Dunning, la famille devait se préparer à passer à table, même si je savais que les plus jeunes seraient trop excités pour manger, et qu'Ellen avait déjà enfilé son costume de princesse Summerfall Winter Spring. Sans doute s'était-elle ruée dessus dès son retour de l'école et harcelait-elle sa mère pour qu'elle lui fasse ses peintures de guerre. Je me suis assis, adossé au mur du fond du garage. J'ai fouillé dans mon sac et en ai extrait une de mes friandises. Je l'ai considérée avec une pensée pour ce pauvre vieux J. Alfred Prufrock. J'étais pas si différent de lui, à la vérité. C'était une sucrerie que je n'étais pas sûr d'oser manger. Mais j'allais avoir besoin d'énergie au cours des trois, au minimum, prochaines heures. Et mon estomac vide grondait. Et merde! J'ai déchiré l'emballage de la barre Payday et mordu dedans. Elle était délicieuse, sucrée, salée, croquante, fondante. J'en ai englouti les trois quarts en deux bouchées. Je me préparais à gober le reste, en me demandant pourquoi diable j'avais pas emporté un sandwich et une bouteille de coke, quand j'ai surpris un mouvement du coin de l'œil. J'ai fait le geste de me retourner, plongeant la main dans le sac pour me saisir en même temps du revolver, mais il était trop tard. Un truc froid et pointu m'aiguillonnait la tempe. « Sors ta main de ce sac !» J'ai aussitôt reconnu la voix. « Pouvez-vous l'accrocher et croire au Père Noël ?» m'avait dit son propriétaire quand j'avais osé demander si lui ou l'un de ses collègues connaissait un dénommé Dunning. Il m'avait rétorqué que Derry était pleine de Dunning, ce que j'avais vérifié moi-même par la suite. Mais il avait tout de suite su de quel Dunning je parlais, pas vrai? J'en avais maintenant la preuve. L'objet pointu me piqua un peu plus fort et je sentis un filet de sang tiède, presque chaud sur ma peau froide, dégouliner le long de mon visage. « Sors-la de suite, l'ami. Je crois savoir ce qu'il y a là-dedans. » Et si tu la ressors pas vide, ta sucrerie d'Halloween, ça va être 45 cm d'acier japonais bien trempé. Bien effilé aussi. Ça va rentrer comme dans du beurre et ressortir facile de l'autre côté. J'ai ressorti ma main vide du sac et me suis retourné pour faire face à Pat Bretelle. Ses cheveux pendouillaient en mèches grasses sur ses oreilles et son front. Ses yeux sombres nageaient dans son visage pâle et mal rasé. J'ai éprouvé une consternation si grande qu'elle a frôlé le désespoir. Mais frôlé seulement. Même si ça doit me tuer, ai-je encore pensé. Même si ça doit me tuer. Il n'y a rien que des friandises dans ce sac, ai-je déclaré d'un ton léger. Si vous en voulez une, monsieur Turcotte, il vous suffit de demander. Je vous en donnerai volontiers une. Il a chopé le sac avant que je puisse remettre la main dedans. Son autre main n'avait pas lâché le couteau, qui était en fait une baïonnette. J'ignore si elle était japonaise ou non. Mais à voir comment elle luisait dans la lumière du crépuscule, je voulais bien croire qu'elle était affilée. Il a fouillé à l'intérieur et en a retiré mon spécial police.
« Rien que des friandises, hein ? Ce truc ressemble pas vraiment à une friandise, Humberson. »
« Je vais en avoir besoin. »«
Ouais. Et les damnés auront besoin d'eau glacée en enfer, mais on leur en donnera pas. Baissez le ton !»
lui ai-je recommandé. Il a glissé mon revolver sous sa ceinture. Exactement où j'avais imaginé le glisser une fois que je me serais faufilé à travers la haie et progresserais dans le jardin des Dunning. Puis a pointé sa baïonnette vers mes yeux. Il m'a fallu une bonne dose de volonté pour ne pas broncher.
« Me dis pas ce que j'ai à faire !»
Il a chancelé sur ses pieds. S'est d'abord frotté l'estomac, puis la poitrine, avant de refermer sa main sur la colonne hérissée de poils de barbe de son cou, comme si quelque chose s'était coincé à l'intérieur. J'ai entendu un cliquetis dans sa gorge lorsqu'il a dégluti.
« Monsieur Turcotte, vous vous sentez bien ? Comment tu sais mon nom ?»
Et aussitôt, sans attendre ma réponse,
« Ah, c'est Pete, hein ? Le barman du Silver Dollar. Il te l'a dit ?»«
Oui. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Depuis combien de temps me suivez-vous ? Et pourquoi ?»
Il a eu un sourire sans humour, auquel manquaient deux dents. « Ça fait deux questions, ça.
Contentez-vous d'y répondre. »«
Tu te comportes comme... »
Il a encore grimacé, encore dégluti et pris appui contre le mur du garage.
« Comme si c'était toi le justicier. »
J'ai évalué la pâleur et l'anxiété de Turcotte. Mr. Keane était peut-être un vieux salaud au penchant sadique, mais pour ce qui était de poser des diagnostics, il n'était pas mauvais. Après tout, qui mieux que le pharmacien du coin peut reconnaître un virus saisonnier ? J'étais à peu près sûr que je n'aurais plus besoin de mon reste de caopectate. Mais pour Bill Turcotte, les choses ne faisaient que commencer. Je pourrais lui refiler mes garnitures pour l'incontinence aussi, pour quand le virus sera bien installé.
Ça pourrait être une bonne ou une mauvaise affaire, j'ai pensé. Mais c'était des conneries. Il n'y avait rien de bon dans cette affaire.
Continue à le faire parler. Et quand il se mettra à vomir, à supposer que ça lui prenne avant qu'il me coupe la gorge ou me descende avec mon propre flingue, saute-lui dessus.
« Dites-le-moi, »
ai-je insisté. « Je pense avoir le droit de savoir, puisque je ne vous ai rien fait. »«
C'est à lui que t'as prévu de faire quelque chose. Voilà ce que je pense. »« Tout ce baratin d'immobilier que t'as dégoisé dans toute la ville, du flan. » Voilà ce que j'en dis. T'es venu ici pour lui.
Il a hoché la tête en direction de la maison de l'autre côté de la haie.
Je l'ai su à la seconde où t'as prononcé son nom.
Comment ça ? Cette ville est pleine de Dunning, vous l'avez dit vous-même.
Ouais, mais un seul qui m'intéresse.
Il a levé la main qui tenait la baïonnette et de sa manche a essuyé la sueur sur son front. J'aurais pu reprendre le dessus à ce moment-là, mais je craignais d'attirer l'attention par un bruit de bagarre. Et si le coup partait, ce serait probablement moi qui prendrais la balle.
Et puis j'étais curieux aussi.
Il a dû vous rendre un fameux service pour que vous deveniez son ange gardien, j'ai dit. Il a lâché un jappement qui était un rire amer.
Oh, elle est bonne, celle-là, bonhomme. Mais dans un sens, c'est vrai. Je suppose que je suis un peu son ange gardien. Du moins pour le moment.
Que voulez-vous dire ?
Je veux dire qu'il est à moi, Amberson. Ce fils de pute a tué ma petite sœur. Et si quelqu'un doit lui coller une balle ou une lame ?
Il a brandi la baïonnette devant son visage pâle, aux traits tirés.
Ce sera moi !